おかしいおかしい。
Je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Roung à la présentation.
Bonsoir. Ouverture ce mercredi de la session de septembre au Parlement. En dehors du budget, quelles pourraient être les autres priorités de cette session? Nous recevons comme invité professeur Tshibangu Kalala, professeur de droit à l'Université de Kinshasa et député national de la majorité. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Moïse Nyarugabo, sénateur, membre du RCD, parti de l'opposition. Honorable Nyarugabo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et analyste politique. Professeur Kabamba, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Comme d'habitude, vous êtes le quatrième invité, chers auditeurs, et vous nous avez déjà envoyé vos réactions. Jean-Marc de Guémena dans la province de l'Équateur. Nous saurons si nous avions raison ou tort de voter nos députés par le sérieux qu'ils accorderont à cette session. Si Thierry Saïd y passe d'Ouvira dans la province du Sud Kivu, le temps passe et ne revient plus. Moi, j'attends de cette rentrée parlementaire la nomination de membres de la CENI, des explications claires sur la gratuité de l'école primaire ainsi que des explications sur la suspension de l'exploitation et l'exportation des mines dans l'ancien Kivu. Merci de nous suivre sur toute l'étendue de la RDC et partout au monde sur RadioCapi.net. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Vous le savez, l'Assemblée nationale a ouvert ce mercredi les travaux de la session ordinaire. Julien Nyamouini, vous étiez sur place. Quelles sont les principales articulations du discours du président de l'Assemblée nationale?
Écoutez, je pense que trois principales articulations peuvent être retenues dans le discours du président de la Chambre basse. D'abord, les priorités. Évariste Beauchamp estime qu'il faut adopter les lois urgentes. Il s'agit clairement des lois qui conditionnent l'organisation des élections, parmi lesquelles la nouvelle loi électorale, la loi sur le découpage territorial, la révision de la Constitution et, bien sûr, la loi financière.
Julien, à propos des élections, le président de l'Assemblée nationale a demandé à toutes les parties que les propositions des noms des candidats au bureau de la CENI soient déposées au plus tard le 25 septembre. Pensez-vous que cela est possible?
Oui, je pense que cela est possible si toutes les parties ont la volonté politique. Je rappelle ici que pour l'opposition, une certaine opinion propose que les trois postes soient répartis entre le groupe parlementaire, alors que d'autres pensent qu'il faut réserver un poste à l'opposition extra-parlementaire.
Alors que pense le président du Sénat par rapport au calendrier électoral présenté par la CEI?
Léon Kengo Adondo a déclaré dans son discours que le calendrier présenté par la CEI est perfectible. En clair, il sera, ce calendrier, bien évidemment, sera amélioré. Il estime que, je cite, le but n'est pas nécessairement la victoire, mais l'amélioration. C'était donc dit.
Alors, dernière question, Julien. La loi financière n'a pas encore été déposée dans le délai. Qu'en pense l'Assemblée nationale?
Il faut d'abord préciser que le délai constitutionnel impose au gouvernement de déposer le projet de budget au plus tard le 15 septembre. Ceci dit, à ce jour, le gouvernement n'a pas déposé ce projet de loi. Évariste Beauchamp a demandé au gouvernement de s'acquitter très rapidement de son obligation. Mais l'examen de ce projet de budget est conditionné par la présentation des rapports d'exécution du budget 2010. Je vous rappelle que le débat sur la présentation du rapport d'exécution du budget 2009 avait divisé les élus du peuple.
Merci Julien Nyamouini.
Je vous en prie.
Professeur Tshibangu Kalala, je rappelle que vous êtes enseignant de droit à l'Université de Kinshasa, député national de la majorité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, professeur, juste un mot sur l'ambiance qui a prévalu à l'ouverture de cette session.
Eh bien, c'était une bonne ambiance. Monsieur Rung, tout en vous remerciant encore une fois pour votre invitation. J'étais dans la salle de congrès du Palais du Peuple cet après-midi pour assister à la cérémonie d'ouverture de la session de septembre, comme vous l'avez dit. Donc, la salle était pleine à craquer, tous les députés étaient là, le président Beauchamp a fait son discours d'ouverture. Eh bien, je pense que tout est prêt pour que nous puissions démarrer cette session dans les bonnes conditions. L'ambiance était bonne.
Honorable Nyarugabo, quant à vous, un commentaire sur l'ambiance
au Sénat? C'était très bien et je pense que l'élément particulier que je peux mentionner, c'est que j'ai vu la présence de beaucoup plus de membres du gouvernement qu'à d'autres occasions.
Mais sinon, pour le reste, tous les sénateurs étaient présents, le discours a été lu et entendu.
Et ça présage quoi pour vous ?
Disons, je pense que il y avait beaucoup de solennité et je voyais beaucoup de sérieux sur le visage des gens. Je crois que tout le monde est conscient du travail qui nous attend et surtout que c'est un travail qui est accompagné par l'urgence, par les délais qui ne doivent pas être dépassés. Je crois que tout le monde est conscient du travail à battre.
Professeur Bob Kabamba, vous êtes à Bruxelles, en Belgique. Avez-vous un commentaire par rapport à l'ambiance?
Je dois avouer que je n'ai pas bien suivi, effectivement, je n'étais pas présent lors de l'ouverture de ces deux sessions parlementaires, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, mais j'ai suivi les reportages diffusés par Radio KPI sur Internet, et on a l'avantage de pouvoir vous suivre effectivement par Internet. Je peux suivre effectivement qu'on sent bien que ces sessions commencent dans une ambiance plus ou moins dès le début de campagne électorale, du fait que vous avez fait état de supporters des uns et des autres qui sont venus manifester leur soutien à l'un ou l'autre candidat potentiel pour les futures élections.
Merci, professeur Kibango Kalala. Allons-y dans la matière. La session est budgétaire, mais il y a les élections qui approchent et plusieurs observateurs pensent qu'il y aura beaucoup d'autres priorités d'ordre politique. Quelles pourraient être ces priorités d'après vous?
Bien, à mon avis, bon, c'est vrai que la session de septembre, c'est une session qu'on qualifie de budgétaire, hein, parce que c'est la loi fondamentale, c'est la loi de l'État, le gouvernement ne peut pas fonctionner sans budget, donc c'est une loi très importante, la loi financière. Mais ce budget est très important pour cette fois-ci parce que nous sommes, je peux dire, dans l'année électorale. C'est à travers ce budget que nous allons voir si nous sommes prêts, si nous avons des moyens financiers nécessaires pour organiser les élections l'année prochaine. Ça, c'est le dernier budget avant les élections, il n'y aura pas une autre. Donc c'est une priorité pour que nous puissions prévoir dans le budget des crédits nécessaires pour permettre à la CENI d'organiser les élections dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on va revenir sur ce point au cours de cette édition. Mais en dehors du budget, il y a des lois qui me paraissent indispensables pour l'organisation des élections. D'abord, il faut régler la question du bureau de la CENI. Le président Bouchard l'a dit au cours de son discours d'ouverture de la session. Il faut que la majorité désigne le plus vite possible les quatre personnalités qui vont la représenter au sein du bureau de la CENI. L'opposition doit également s'organiser le plus vite possible.
D'ici le 25 septembre.
D'ici le 25 septembre, c'est le délai que le président Bouchard a donné. Moi, j'espère bien que les uns et les autres vont respecter ce délai. Bon, c'est un délai indicatif pour montrer qu'il faut aller vite. De cette manière-là, nous allons éviter la querelle entre CENI, CI, des gens qui traînent les pieds ou qui veulent manipuler, je ne sais pas quoi. Et donc, il faut mettre fin à cette querelle. Il faut très vite mettre en place ce bureau. Ce n'est pas la formule que moi je souhaitais, mais la loi est là, il faut le faire, et pour qu'on agite. Bon, après le règlement de la question du bureau de la CENI, il y a la loi électorale. Bon, je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui reprendre la rédaction d'une nouvelle loi électorale.
Parce que le président Bouchard a parlé d'une nouvelle loi électorale.
Bon, mais ça c'est le président Bouchard qui l'a dit. Bon, moi je suis d'un avis différent. Je crois que la loi de 2006, c'est déjà une bonne loi. Bon, c'est vrai qu'il y a des aspects de cette loi qu'il faut améliorer. Donc il faut réviser. Je ne pense pas qu'il faut refaire une nouvelle loi, ça va prendre trop de temps. Il faut voir qu'est-ce qui n'a pas marché. À la lumière de notre expérience de 2006, comment on a géré les élections de 2006 avec cette loi, donc on veut voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Moi, je vois trois points, par exemple, sur cette loi. Il faut revenir sur le mode de scrutin. Bon. C'est adopté.
Proportionnel.
Oui, essentiellement le scrutin proportionnel, parce qu'il faut rationaliser les choses. Bon, le scrutin proportionnel intégral de 2006 a créé quelques problèmes, je crois qu'il faut améliorer, on peut discuter autour de ça. Il y a la question du contentieux, comment on doit gérer le contentieux électoral. Il y a eu beaucoup de failles, beaucoup de contestations en 2006, il faut revoir, dans cette loi, cet aspect-là du contentieux électoral, et personnellement j'ai des propositions à faire au cours du débat à l'Assemblée nationale. Troisième point, il faut renforcer la transparence. S'il y a des gens dans ce pays qui veulent construire leur avenir politique sur la tricherie, sur la fraude, il faut que les démocrates s'organisent pour arrêter ces gens-là, leur barrer la route. Donc il faut, à mon avis, revoir la transparence de l'organisation des élections, notamment au niveau du bureau de vote, et surtout sur la question de compilation. Bon, déplacer, ne pas aller au niveau du district pour aller compiler les résultats là-bas, mais le faire au niveau de la Constitution. Troisième priorité, moi, bon, il y a la fameuse révision de la Constitution avec en toile de fond la question du fameux découpage électoral entre guillemets. Il faut voir aussi la Cour constitutionnelle, il faut régler sa composition parce que cette Cour qui va gérer le contentieux électoral, il faut adopter la loi très rapidement, désigner les personnalités, les membres ou les 9 membres de la Cour constitutionnelle, il faut le faire très vite. Je pense que ça, ce sont des priorités, à mon avis, il faut aller très vite sur ces trois points.
Honorable Nyaruga, vous venez de suivre le professeur Kibangu. Pour vous, quelles pourraient être les priorités?
Je suis d'abord très content d'entendre de la bouche de mon ami, le professeur Kibangu Kalala, de la majorité, parler de ce souhait de voir la transparence se renforcer, d'organiser les contentieux et de lutter contre la tricherie. C'est une très bonne nouvelle. J'espère qu'on ne va pas se limiter à ces beaux discours, on va aller dans les faits et effectivement la majorité ou la majorité au pouvoir va s'empêcher de verser dans la tricherie qu'elle prépare déjà et nous en avons des preuves.
Vous faites souvent. Alors, le professeur Sivan,
parce qu'il sait de quoi je parle. Je pense, monsieur le journaliste, que la première priorité, parce que la session est budgétaire, c'est le budget. Un commentaire là-dessus, c'est quand le gouvernement va nous présenter le budget, que nous allons savoir si les déclarations qu'on nous fait chaque jour que les élections vont être organisées dans le délai constitutionnel, c'est là que nous allons le savoir. Si c'est simplement pour occuper les esprits des gens, et venir nous dire à un moment donné qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, il est impossible de faire ceci ou cela, nous le saurons à partir du budget qu'on va nous présenter. Et donc, je pense que en examinant le budget de l'exercice en cours, nous allons nous mettre d'accord si les élections auront lieu en 2011 ou pas, déjà en lisant ou en travaillant sur le budget. C'est pour cela que ce budget est effectivement d'une grande importance et il est déterminant pour la suite du processus démocratique dans notre pays. Quelles sont les urgences? Ce sont les mêmes. Je pense que c'est des questions sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de contradictions. Naturellement, il faut mettre en place la CENI. D'urgence. C'est pour moi la première urgence.
D'ici le 25, vous pensez que c'est
possible? Ça, c'est la date qui engage vos charges. Je ne sais pas, il attire de quoi, ou il attire de qui ou de quoi, je ne sais pas. Mais bon, prenons ça comme le professeur a dit, une date indicative pour que les gens comprennent qu'il y a urgence et qu'ils se mettent au travail. Mais le 25, je ne crois pas que ce soit une date. Je ne sais pas d'où elle est venue. Alors, mais c'est important. Après la mise en place de la CENI, il y a la loi électorale, naturellement, qui est importante. Mais avant même de voter ou de statuer sur la loi électorale, moi je pense que nous devions déjà finaliser la question du découpage, de la décentralisation des nouvelles villes, des nouvelles communes, des nouvelles provinces, parce que les circonscriptions dépendent de ça.
Donc, c'est la révision constitutionnelle.
Non. La révision constitutionnelle, moi, je n'en parlais pas. L'opportunité de la révision constitutionnelle, son urgence, dépend des auteurs. Ces auteurs, ceux qui conçoivent la proposition ou le projet de loi portant révision constitutionnelle, ils le font encore en secret. Nous ne savons pas quel est le contenu. Je sais que mon ami à côté est toujours cité parmi les ténors de la révision constitutionnelle. Lui est dans le secret, lui peut en parler. Moi, je ne sais pas de quoi on va parler pendant la révision constitutionnelle. Alors, mais je pense que déjà, les décrets du Premier ministre, dont le président du Sénat a demandé la copie corrigée, règle déjà certains problèmes sur les nouvelles villes, les nouvelles communes, et ainsi de suite. Donc, je crois que, et la mise en place de nouvelles provinces qui sont dans la Constitution. Si vous avez suivi le discours du président Kengo, il a dit que l'article 226 est caduque dans sa lettre,
mais dans son esprit.
Dans son esprit, il n'est pas caduque. Donc, cette disposition n'est pas caduque. Elle est même renforcée par l'article 2 de la Constitution. Donc, les nouvelles provinces, ça reste toujours une urgence. Et après ça, nous pensons qu'il faut finaliser la loi sur la Cour constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'on ne peut pas encore se mettre le contentieux devant les juges nommés par une seule personne. Parce que les responsables de la Cour suprême aujourd'hui sont nommés par une personne. Et peut-être pour terminer à ce niveau, la mise en place du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Aujourd'hui, la HAM, c'est en quelque sorte assume les affaires courantes. Et aujourd'hui, vous voyez le ministre de la Communication en train de se battre pour dire ne faites pas la campagne, c'est pas encore le moment, alors qu'il est jugé parti. Et dans l'entretemps, lui-même, des fois, il va avec son parti. Mais c'est cet organe qui doit nous dire quand est-ce qu'il faut faire quoi.
Professeur Bob Kabamba, vous avez suivi les deux députés que nous avons en studio. Quelle est votre analyse à vous ?
Un député
et un sénateur, voilà, oui. Plus précisément.
Voilà. Je vous remercie beaucoup de me faire associer donc, à ce débat fort intéressant, surtout avec des honorables de cette qualité. Je voudrais souligner plusieurs choses. Déjà, par rapport au discours, des honorables, on se rend bien compte que nous sommes entrés dans une phase importante et une phase décisive dans le cadre de ce qu'on appelle l'organisation de la deuxième élection qui permet de pouvoir consolider ou non consolider la démocratie. Alors, les différents éléments qui ont été mis sur la table, aussi bien concernant la loi électorale, aussi bien concernant le budget, et aussi bien concernant la CENI et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, montre très très bien qu'il est importantissime de pouvoir avoir des dispositions législatives qui soient vraiment indispensables pour pouvoir organiser les élections que tout le monde attend. Et ces dispositions sont indispensables justement pour aussi garantir aussi bien l'opposition que l'opinion publique congolaise et internationale que ces élections vont se faire. Maintenant, ici, sur le fond, quand on parle de la révision de la loi électorale, la nouvelle loi électorale, il faut bien se rendre compte de quoi on parle. Lorsqu'on parle de la nouvelle loi électorale, en disant qu'il suffit de retoucher un petit peu, il faut bien lire l'ancienne loi pour comprendre un peu les enjeux qu'il y a actuellement, pour vraiment que les auditeurs comprennent bien. Je vais prendre deux exemples pour vraiment bien planter le décor de la nécessité d'une nouvelle loi électorale. Je vais parler de la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a 500 sièges de l'Assemblée nationale qui doivent être répartis entre les différentes circonscriptions. Vous savez très bien que l'année, donc lorsque l'on a fait l'enrôlement des électeurs, cette répartition se fait en fonction des électeurs, de l'enrôlement des électeurs. Je vais prendre deux exemples, donc vraiment un cas très précis. Je prends Lubumbashi et je prends Mbujimayi. Lorsqu'on regarde la répartition des sièges entre ces deux villes, Lubumbashi a actuellement 3 à 11 sièges sur base donc de l'enrôlement de 2005-2006. Mbujimayi a aussi droit à 11 sièges sur base de l'enrôlement de 2005-2006. Or, si on regarde le taux d'enrôlement à Lubumbashi et à Mbujimayi, qu'est-ce qu'on remarque ? Lubumbashi, on a enrôlé plus de 90% des électeurs. En Mbujimayi, on a enrôlé que 53% des électeurs. Si je prends uniquement ces deux chiffres, ça veut dire que Mbujimayi est sous-représenté par rapport à Lubumbashi. Or, si on ne change pas effectivement tous ces calculs et toutes ces répartitions de sièges, Mbujimayi continuera à être défavorisé par rapport à Lubumbashi. Or, si j'applique uniquement à ces mathématiques, si j'applique uniquement le taux d'enrôlement des électeurs à Mbujimayi, qui est de 53, que j'essaye de mettre, par exemple, à 90%, j'arrive plus ou moins à 900 000 électeurs à Mbujimayi. Et 900 000 électeurs à Mbujimayi représentent 17 sièges au lieu de 11 actuellement. Et lorsque l'on dit que Mbujimayi prend 17 sièges au lieu de 11, en regardant le quota de sièges qui est réparti pour la province du Kasaï-Oriental, on se rend compte que la Kasaï-Oriental n'a droit qu'à 39 députés. Donc sur les 39, 17 vont être déjà en Mbujimayi. Alors j'entends le sénateur Nyarugabo parler du ministre de la Communication. Vous le savez, le ministre de la Communication est élu à Lodja, et Lodja actuellement est dans la province donc du Kasaï-Oriental, et actuellement, sur base des chiffres, l'OTIA a droit à 3 députés. Mais si j'applique uniquement le calcul en fonction de l'Oumashi, il n'y aura plus 3 députés à l'OTIA, mais il n'y en aura plus que 2 au lieu de 3 députés. Et c'est pour ça que tout l'enjeu capital par rapport à la représentation des députés sur les 500, il est important de pouvoir arriver à avoir une nouvelle législation. Sur la question, effectivement, du budget qui est en lien avec les élections, le sénateur Yarougaou ainsi que l'honorable de la majorité ont tout à fait raison de faire le lien entre le budget et les élections. On sait très bien que les élections en 2006 ont coûté à la communauté internationale principalement plus de 600 millions de dollars. Alors, 600 millions de dollars, pour les élections prochaines, je doute très fort que la communauté internationale soit en mesure de pouvoir mobiliser tous ses moyens pour organiser les élections dans les mêmes conditions qu'en 2006. Il faut modifier certaines dispositions de la loi qui vont permettre justement à ce que le coût des élections soit supportable par la RDC. Merci. Je rappelle aussi le communiqué de la conférence de la réunion interinstitutionnelle qui parle que la RDC va prendre en charge 70% du budget de l'organisation des élections. Or, si dans le budget qui va être présenté au cours de cette session, il n'y a pas l'équivalent de 70% du financement des élections, je vois mal comment la RDC va pouvoir organiser les élections l'année prochaine.
Merci, professeur. Pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, les priorités résideraient dans la mise en place des membres qui constitueraient la CENI, dans la mise en place de la Cour constitutionnelle et aussi dans l'examen de la loi électorale. On l'écoute au micro, dénonçant au Liga.
Ce qui est prioritaire pour le Parlement, je crois qu'il faut commencer d'abord par la classe politique. La classe politique doit comprendre que maintenant que la loi sur la CENI est promulguée et que dans cette loi, 4 postes reviennent à la majorité et 3 à l'opposition, que la majorité puisse s'organiser pour pourvoir à ces 4 postes et que de son côté l'opposition puisse s'organiser pour désigner ces 3 délégués au sein de la CENI. Ce qui est prioritaire aussi, c'est de dire que l'Assemblée nationale et le Sénat, nous devons bien lire la Constitution. Nous devons mettre en place les institutions du pouvoir judiciaire, surtout la Cour constitutionnelle. Et il faut savoir que c'est la Cour constitutionnelle qui juge et qui tranche sur les litiges électoraux. On ne peut pas aller aux élections avec les juges et les magistrats d'une certaine obéissance. C'est urgent aussi que nous puissions nous organiser au niveau de l'Assemblée nationale pour examiner rapidement la loi électorale. Mais là, nous tirons déjà la sonnette d'alarme. Nous avons la loi électorale de 2006, avec le mode de scrutin que nous connaissons, et cette loi a fait ses preuves. Alors, les rumeurs que nous entendons ça et là, qui tendraient à modifier ce mode de scrutin pour nous amener dans les modes de scrutin qui ont fait couler le sang dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, nous disons, nous tirons la sonnette d'alarme.
Professeur Kibango, Vital Kamerhe a repris presque les grandes lignes de ce que vous avez énoncé tout à l'heure, mais le professeur Bob Kabamba, lui, pense qu'il faut plutôt une nouvelle loi électorale.
Oui, monsieur Rong, d'abord je voudrais revenir sur les déclarations de Vital Kamerhe. Que je n'ai pas entendu depuis un certain temps, et bon, je suis heureux de l'entendre ce soir. Oui, je pense que la Cour suprême de justice, bon, il faut rendre justice aussi aux juges de la Cour suprême de justice. Je ne pense pas qu'on puisse les considérer comme étant des juges qui ont eu une certaine obédience ou d'une certaine obédience. Je pense que ce sont des hommes et des femmes qui font leur travail correctement et qu'ils ne sont pas infoldés à tel ou tel parti politique. Toujours est-il qu'en 2006, il y a eu des fautes de comportement, mais qui n'ont rien à voir avec l'appartenance à telle obédience politique. Je suis tout à fait d'accord. Et nous l'avons dit ce soir avec mon ami Yarougaou qu'il faut la Cour constitutionnelle le plus vite possible. Comme ça, on va éviter des procès d'intention à l'égard des uns et des autres. Maintenant, pour Bob Kabamba, écoutez, je ne fais pas la même analyse que lui. Bon, ce sont des questions trop techniques, je crois qu'on ne peut pas en discuter de rien comme ça. Ce n'est pas vraiment obligatoire ou nécessaire aujourd'hui de commencer à rédiger une nouvelle loi électorale. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des aspects qu'il faut améliorer. Pour revenir aux exemples qu'il a donnés de Lubumbashi et de Mbujimayi, eh bien, le problème, c'est de voir quelle est la circonscription
qui est la plus peuplée par rapport à d'autres circonscriptions. Les sièges, on ne les donne pas aux circonscriptions, on donne aux hommes. Ce n'est pas au territoire qu'on donne les sièges, on donne le territoire aux hommes. Un territoire qui est plus peuplé que l'autre, elle a plus de représentants que le territoire qui est moins peuplé. Alors si, dans le cadre du nouvel enrôlement des électeurs, la ville de Mbujumbura arrive à 1 million d'enrôlés, par exemple, c'est tout à fait normal que cette ville puisse avoir plus de représentants, plus d'élus que d'autres villes. Mais ça, ce n'est pas un problème de la loi électorale. C'est question de savoir quelle est la quotité. Parce qu'ici, dans notre pays aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Il faut 50 000 habitants pour un député. 50 000 habitants pour un député. Est-ce qu'on va remonter cette fourchette, arriver à 100 000 habitants pour un député, on dit, ou on va garder cette somme? Et donc, on va tout simplement voir combien d'enrôlés on a eu sur l'ensemble du pays. On va diviser par le nombre de choses pour trouver le quotient électoral national. C'est très simple. Donc, le problème, pour cela, il ne faut pas refaire une nouvelle loi. Non, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Mais ce sont des questions trop techniques qu'il faut discuter calmement autour d'une table entre experts pour trouver de bonnes solutions.
Ah, mais on retient quand même que pour vous, refaire toute une loi, c'est, ça, vous ne l'acceptez pas.
Ce n'est pas nécessaire.
Alors, l'honorable Nyarugabo a mis un accent sur la révision constitutionnelle. Hein. Il dit que vous êtes même cité parmi les ténors de ce chapitre.
Oui, c'est vrai. La Constitution sera revisée. Non. On ne va pas garder dans notre Constitution un article qui dit qu'on doit installer 25 ou 26 provinces dans un délai de 3 ans. Aujourd'hui, ce délai a expiré largement. On ne va pas garder une telle disposition de la Constitution juste comme une fleur pour décorer les textes.
Mais le Nyarugabo dit, professeur, qu'au Sénat, par exemple, avec la dernière proposition, ça a presque été résolu, ce qu'il faut réviser la Constitution.
Pour non, mais quelle proposition? Il n'y a pas de proposition. Le président King aurait dit que bon, cette disposition n'est pas tombée caduque, mais c'est dans la lettre, mais dans l'esprit. Mais c'est lui qui le dit. Ce n'est pas le président King qui dirige la Constitution, qui va réviser la Constitution. C'est ce qu'il faut dire. Le texte de la Constitution pose des problèmes sur un certain nombre de dispositions. On ne va pas ouvrir le débat ce soir sur cette question-là. On a cette question de révision de la Constitution est inscrite à l'ordre du jour du calendrier de cette session. Je demande aux uns et aux autres de faire preuve de patience. Le débat va s'ouvrir. Nous qui demandons la révision de la Constitution, nous savons pourquoi on demande cette révision. Il y a plusieurs dispositions techniques qui n'ont rien à voir avec les aspects politiques. On a essayé de jeter comme ça, de lancer des procès d'intention, qu'on va tripatuer la Constitution pour regarder le mandat du président pour prolonger, pour faire ceci. Il n'en est rien. Dans le texte sur lequel nous avons travaillé avec un grand nombre de députés, c'est ça, nous n'avons pas abordé la question du mandat du président, surtout pour allonger, pour faire ceci. Ça, on n'a pas touché à l'article 220 qui interdit qu'on puisse réviser cette disposition. Donc, soyez patients. Cette question sera abordée en temps utile au niveau du Parlement et ce sera un débat public et ouvert. Tous ceux qui ont des propositions à faire, qui sont pour, qui sont contre, vont s'exprimer et on verra comment on va évoluer avec cette question. Donc, il faut arrêter de faire des procès d'intention aux uns aux autres pour le moment.
Sénateur Nyarugabo, y a-t-il opportunité de réviser la loi électorale? On se souvient qu'à un moment, le président King a soumis à la réflexion que, par exemple, qu'il y ait le scrutin majoritaire pour avoir un gouvernement fort. Y a-t-il cette opportunité?
Peut-être que avant de répondre à la question, je voulais faire un petit commentaire sur ce que vient de dire le professeur Kalala Tshibangu sur la révision de la Constitution. Si on doit réviser la Constitution, on ne doit pas se jeter des fleurs pour ça. La Constitution pose problème pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait ce que nous avons dû faire, ce que nous étions supposés faire. La Constitution pose problème parce qu'on n'a pas installé les 26 provinces jusqu'à l'expiration du délai qui était prévu. La Constitution pose problème parce qu'on n'a pas rétrocédé les 40% aux provinces. La Constitution pose problème. Donc, ce n'est pas la Constitution qui pose problème, c'est nous, c'est le gouvernement qui pose problème. Alors, et aujourd'hui, bon, comme on estime que la voie la plus facile, c'est de modifier la Constitution, adapter la Constitution à nos erreurs, bon, on va y aller. Mais même les nouvelles dispositions que nous allons faire, s'il n'y a pas de volonté politique, on va encore la violer et la violenter. C'est devenu même... On est tellement à l'aise lorsqu'on viole la Constitution. Ça fait peur.
On viole la constitution, on est très tranquille, on ne présente d'excuses à personne, on n'est même pas, même la conscience ne dérange plus. C'est grave. Alors, on va réviser. Comme la majorité est déterminée à réviser, et on va voir les autres dispositions qu'on va nous présenter, parce qu'eux qui font la proposition. Mais s'il n'y a pas de volonté politique, s'il n'y a pas de sérieux, s'il n'y a pas de discipline, même les nouvelles dispositions seront violées. Et on ne va pas respecter les délais. Au sujet de la loi électorale, nous pensons que c'est normal qu'il y ait une nouvelle loi électorale, qu'elle soit entièrement nouvelle, qu'elle soit une révision de l'ancienne. De toute façon, on va voter une loi. Mais, à mon avis, je pense qu'on n'est pas obligé de recommencer à zéro, mais toutes les dispositions qui ne seront pas d'application, qui ne sont plus à adaptées, peuvent être modifiées. Et là, je crois que là, c'est tout à fait normal. Chaque élection, on peut avoir une loi. Quel est des éléments qu'il y avait dans l'ancienne, c'est tout à fait normal parce que on ne va pas faire table rase. Il y a déjà une expérience que nous avons eue avec la loi qui a organisé, sur base de laquelle on a organisé les élections de 2006. Et donc, c'est sur base de cette expérience que nous verrons qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer. Par rapport à la question que vous avez posée du mode de scrutin. Le système, est-ce qu'il faut changer? Nous pensons qu'il ne faut pas du tout le faire. Parce que le mode proportionnel peut avoir ses inconvénients. Chaque mode a ses avantages et ses inconvénients. Mais déjà, nous l'avons adopté dans un contexte que nous connaissons. Et il a permis à ce que toutes les couches de notre population, les grands partis, les moyens, les petits, soient représentés. Je pense que c'est ce dont on a besoin. Si nous voulons un système qui permet que le gagnant gagne tout, le perdant perd tout, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça aujourd'hui? Est-ce que si les élus ne travaillent pas bien, c'est à cause du système électoral? Pas du tout. Donc je crois que le problème n'est pas dans le système électoral. Le problème se pose au niveau des élus, dans la conception des élus par rapport aux institutions et à leurs devoirs, mais ce n'est pas dans le système.
Professeur Bob Kabamba, il y a des auditeurs qui nous écrivent, notamment Olivier de Kinshasa. Avec cette contrée parlementaire, il n'y a rien à attendre et je demande à l'invité de la majorité de nous dire quel est le rôle d'un député pour qu'en 2011, personne ne vienne tromper le peuple avec des petites choses. Arnold Ombeni-Mongo, cette session budgétaire ne sera pas différente d'autres qui ont précédé, étant donné que tous les budgets votés par nos assemblées, tant nationales que provinciales, ne tiennent pas compte des besoins de la population. Toutefois, les députés doivent avoir en tête que la population leur réserve une surprise et que c'est la dernière année de leur mandat. De cette session dépendra la réélection de la plupart d'entre eux. Professeur, on a l'impression qu'il y a un grand fossé entre les députés et la population et que pratiquement 5 ans après, la population ne comprend pas encore ce que c'est que le rôle d'un député.
Oui, vous avez tout à fait raison de souligner ça, mais avant toute chose, je voudrais quand même revenir sur ce que l'honorable majorité a dit tout à l'heure. Simplement lui préciser, effectivement, que la répartition des sièges fait partie de la loi électorale. Le mode de scrutin électoral fait partie de la loi électorale, et c'est le cœur d'une loi. Lorsqu'on modifie, comme il veut modifier le mode de scrutin, il faut modifier beaucoup de dispositions qui découle du mode de scrutin. C'est un débat que l'on pourrait avoir avec lui à la partie. Il faudra prendre le temps à la partie pour le débat. Alors, en réponse à votre question, il faut bien savoir que le député joue trois rôles. Il joue le rôle de la représentation, il joue le rôle de la législation, c'est-à-dire qu'il doit produire des lois, et il joue le rôle du contrôle du gouvernement. Effectivement, quand un député n'arrive pas à assumer son rôle de représentation, ça veut dire qu'il est en déficit vis-à-vis de son électorat. Or, quand on regarde effectivement toute une série d'évaluations qui sont faites par rapport au travail parlementaire, on remarque que beaucoup de députés n'ont pas assumé leur rôle de représentation, qui est de pouvoir représenter leur électorat et de rendre compte du travail qu'ils font vis-à-vis de cet électorat. Ils ont un mandat représentatif, ils doivent rendre compte de ce qu'ils ont fait comme travail. Malheureusement, beaucoup de députés ne l'ont pas fait. Et ceux qui ne le font pas, l'électorat va pouvoir, on peut l'espérer, au niveau des élections qui vont être organisées l'année prochaine, sanctionner en fait ceux qui n'ont pas assuré ce rôle-là. Quant au rôle de la législation, c'est-à-dire que le député est là aussi pour produire
produire des lois, pour faire des lois, pour que l'institution fonctionne bien. Est-ce que le député a fait suffisamment de propositions, pas suffisamment de propositions, pour pouvoir faire évoluer le fonctionnement de toutes les institutions? Troisième rôle, qui est celui du contrôle, c'est-à-dire de contrôler l'exécutif par les questions, par les enquêtes, par les commissions d'enquête, pour savoir si, effectivement, le gouvernement fait bien son travail ou ne le fait pas. De ce qu'on peut en tirer de manière globale, lorsque l'on lit effectivement les commentaires à différents niveaux, que ce soit la société civile, que ce soit les questions des auditeurs de Radio Capi, on se rend bien compte qu'il arrive qu'il y a vraiment un déficit clair de la part des députés par rapport au rôle de représentation. Ils n'ont pas assumé pleinement ce rôle-là. Et donc, lorsque l'on va arriver aux élections, j'ose croire qu'il va y avoir beaucoup de surprises par rapport à des élus actuels qui vont se représenter, qui espèrent préavoir un nouveau mandat.
Professeur Kibango, d'autres auditeurs, Augustin Mwango de Kalima dans la province du Maniema, je souhaite que nos élus, surtout ceux de l'AMP qui sont majoritaires, traitent avec plus de responsabilité les questions délicates qui les attendent, sinon on noterait une forme de dérive et engendrerait une crise politique grave dans notre pays. Adrien Ilobakwe de Kananga au Kassai Occidental, les honorables députés doivent savoir que c'est la dernière chance pour qu'ils se rattrapent de cet échec cuisant de leur part, professeur.
Je ne sais pas. Bon, écoutez, c'est tout à fait normal que les électeurs puissent s'exprimer comme les deux amis qui viennent de parler. Nous avons une grande responsabilité. Nous avons choisi nous-mêmes, en tant que députés, d'aller nous présenter auprès de notre peuple pour dire que nous sommes en mesure de faire quelque chose de bien pour notre pays, contrôler le gouvernement, voter les lois. C'est ça, les missions constitutionnelles qui ont été confiées par notre peuple. Et maintenant, il faut voir comment chaque député, comment il se comporte lui-même dans sa vie privée, dans sa vie publique, dans sa façon de gérer le mandat qu'il a reçu le peuple. Et donc, nous n'avons pas beaucoup de leçons à donner aux uns et aux autres, mais je pense que chaque député, c'est un responsable. Il doit, comme on l'a dit au cours de cette émission, savoir rendre compte de ce qu'il fait dans l'exercice de son mandat parlementaire. Et qu'il faut être responsable, qu'il faut être sérieux, qu'il faut travailler pour l'intérêt général, avoir une grande ambition, un grand projet pour notre pays. Je crois que tous les hommes politiques doivent s'inscrire dans ces démarches-là. Et je suis tout à fait d'accord avec les observations des auditeurs. Mais puisque j'ai encore la parole, j'aimerais bien souligner à Bob Kabamba que je suis tout à fait disposé à le rencontrer en Europe ou ici à Kinshasa pour discuter de cette question essentielle de la loi électorale. On ne va pas ouvrir le débat sur la question de savoir il faut abroger totalement de la loi actuelle, il faut une nouvelle loi. Tout dépend si la révision de la loi implique la modification de plusieurs dispositions de la loi électorale et que cela entraîne une ampleur telle qu'il faut absolument, il faut alors à ce moment-là prendre salement une nouvelle loi et abroger la scène, on le fera. C'est un aspect purement technique. On ne va pas avoir une attitude dogmatique sur le sujet pour s'accrocher à l'actuelle loi ou qu'il faut absolument faire une nouvelle loi. Mais c'est un débat entre techniciens. Je suis prêt à pouvoir le mener avec lui pour l'intérêt général.
Sénateur Nyarugabo, deux autres auditeurs, honorable Serge Amoury, membre de l'ANP, pour moi, par le budget, il y a la désignation des membres de la CENI, la loi sur la conservation de la nature et tourisme, la loi sur la réforme de la police, Blanchard-Luana, qui est en Bandaka dans la province de l'Équateur. Nos deux chambres du Parlement doivent impérativement, cette fois-ci, essayer de chercher à faire des recommandations qui inviteraient l'exécutif national de pouvoir immédiatement procéder à l'amélioration du social des Congolais.
Je pense que en répondant, je saisis cette occasion en répondant à la dernière question pour clarifier certaines choses. Les auditeurs, en parlant des élus, particulièrement des députés, je crois que nous devons aussi former notre peuple et l'informer. J'ai l'impression qu'il y a quelque part un peu de la confusion. Il y a même des gens qui pensent que les députés doivent construire des ponts, ils doivent faire des routes.
Mais ce ne sont pas les députés eux-mêmes qui mènent la population.
Je pense qu'il y a des députés, particulièrement de la majorité, qui ont des caisses noires, qui font des choses extraordinaires, et la population prend goût. Non, ça, c'est pas le rôle du député. Le député, son travail, c'est de voter des lois. C'est rassurer que les lois qui sont votées sont justes. On ne va pas voter des lois scélérates. C'est ça la mission du député. Deuxième mission, c'est de contrôler le gouvernement. Et là, je suis d'accord avec les auditeurs, là, on a échoué, particulièrement l'Assemblée nationale qui a la mission, qui a la compétence de voter des motions de censure et de défiance. Pendant toute la législature,
on n'a pas réussi à faire tomber un seul, tout le gouvernement, même pas un seul membre du gouvernement. On veut dire que tous sont corrects, personne n'a commis une faute qui peut exiger, qui peut faire qui démissionne. Non, je crois que là il y a un problème. Mais c'est pour ce genre de choses que le député doit rendre compte, et le sénateur bien entendu. Mais ce n'est pas pour ce que le gouvernement aurait dû faire qu'il n'a pas fait, qu'on doit attendre du député. Mais là où je suis d'accord avec les auditeurs, c'est que si le gouvernement ne fait pas ce qu'il a promis de faire, ce qu'il devait faire, c'est l'Assemblée nationale qui doit faire qu'il rende compte au besoin qu'il soit sanctionné. Et là, ça n'a pas été fait. Pour les recommandations, c'est un sérieux problème. Après toutes les vacances parlementaires, nous faisons des rapports. Tout ce que nous avons entendu au niveau des circonscriptions, au niveau de nos bases, ces rapports sont résumés et les recommandations sont envoyées au gouvernement. Et le gouvernement ne fait rien. À un moment donné, on commence à se demander si ça vaut même la peine de faire des rapports, des vacances parlementaires, de faire des résumés, des recommandations, parce que le gouvernement les met dans les tiroirs. Et bon, on va encore faire, c'est sûr, on va faire des rapports, on va faire des recommandations, mais quel va être le sort de ces recommandations? Dieu seul sait.
Professeur Bob Kabamba, il y a Francis Visso qui est à Goma au Nord Kivu qui dit que le Parlement serait saisi cette fois-ci en faisant l'essentiel après 4 ans d'inertie.
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux fonctions donc, du Parlement, il faudra nécessairement attendre la fin de la législature pour savoir effectivement combien, par exemple, de lois ont été produits par l'Assemblée nationale, par le Parlement congolais, parce qu'il y a l'initiative de la main appartient aussi bien aux sénateurs qu'aux députés, aussi qu'au gouvernement. Donc il faudra arriver à la fin de la législature pour savoir effectivement combien de lois ont été produites par le Parlement. On sait qu'en regardant uniquement la Constitution, il y a plusieurs dizaines des lois qui doivent être éditées par le Parlement pour permettre un meilleur fonctionnement des institutions de l'RDC. Et donc il faudra attendre vraiment qu'on arrive au bout. Donc on a cette session ici, et ensuite on a l'autre session qui est la session du 13 mars jusqu'au 15 juin de l'année prochaine, qui sera probablement la dernière session hors campagne électorale, et à ce moment-là, on pourra faire un bilan par rapport à la production législative. Et même par rapport au contrôle, c'est-à-dire qu'on pourra voir combien de questions ont été posées aux membres du gouvernement, combien d'enquêtes, de commissions d'enquête ont été mises sur pied, et ces commissions d'enquête ont fait des recommandations, et ces recommandations, est-ce qu'elles ont été suivies ou non, de réponses, d'effets, est-ce qu'on a corrigé, par exemple, je pense à la commission sénatoriale qui a travaillé sur les contrats miniers, est-ce que le gouvernement a suivi les recommandations du Sénat sur la réhabilitation des contrats miniers ou pas, etc., etc.
Merci.
Donc on pourra juger ça à la fin de la législature de manière très claire pour savoir si le Parlement a rempli son rôle ou pas.
Merci professeur, parce que nous abordons déjà la dernière partie de cette émission qui concerne les conclusions. Pouvez-vous déjà conclure, professeur, brièvement, je vous en prie.
Brièvement, donc je pense qu'ici les honorables infirmières qui vont mettre les bouchées doubles pour justement arriver à produire suffisamment de lois qui vont permettre à ce que les institutions puissent fonctionner, notamment la loi sur le compte extérieur de la législature, notamment la loi sur la réforme de la justice qui est hyper importante, la mise en œuvre de la CENI, la loi financière, mais on oublie aussi une autre dimension, c'est la loi sur la décentralisation fiscale
qui
permet justement à ce que la décentralisation puisse devenir effective au niveau des provinces et des tempêtes territoriales de centralisation.
Merci professeur. Professeur Kibanka, à la conclusion.
Oui, c'est vrai, moi je vais conclure sur les préoccupations des auditeurs de Radio Capitale tout à l'heure, sur le rôle des députés. Il est vrai, et vous l'avez souligné vous-même, il est vrai que bon, certains de nos collègues ont fait des promesses à la population. Nous sommes allés aux élections en 2006 sur un vaste malentendu. La population n'a pas vu les ministres, n'a pas vu le gouvernement. Le gouvernement, c'est quelque chose de lointain. La population a vu les députés qui sont venus solliciter le suffrage, et la population demande des comptes aux députés qui arrivent là-bas. Étant donné que l'État est en faillite, n'arrive pas à remplir ses missions,
des réseaux de pommes de social de la population, et bien, c'est ainsi que certains députés, à leur décharge, il faut le reconnaître,
c'est pour ça,
par-ci par-là, arrivent à faire quelques réalisations pour satisfaire la population, donc il ne faut pas leur faire le reproche.
Merci, professeur. Sénateur Nerouga, vos conclusions.
Je pense que, j'espère bien que cette fois-ci, la majorité va nous aider à ce que nous puissions voter ces lois et qu'on le vote avec tous les sérieux et ne pas utiliser la majorité mécanique.
Merci de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. Retrouvez-la sur notre site radiocafi.net ou réécoutez-la en rediffusion en FM à 4h15, heure de Kinshasa, dans ce programme sur Radio Cafi. Thank you.